On va passer à Kinder Toten Leader, plan séquence, tableau séquence, Robert Bresson, un rythme effectivement extrêmement lent, dans un cimetière neigeux. Et puis, en voyant cette pièce, j'ai pensé à Closer et à la description que Dennis Cooper fait de ces adolescents qui sont quasiment statufiés, figés dans l'immobilité, dans un salon avec de la neige un peu duveteuse, qui se meuvent très peu. Hein. On pense sans doute aussi à un cinéaste comme Gus Van Sant dans le film qu'il a fait en évoquant notamment Kurt Cobain, enfin de manière détournée. Et c'est vrai qu'il y a quasiment plus de langage, c'est de la reptation. Il y a d'autres choses qu'on peut retrouver peut-être chez vous, comme dans ce personnage de Blake dans Last Days de Gus Van Sant. Mais qu'est-ce qu'il en était donc au départ? Qu'est-ce que vous explorez déjà par rapport au titre Kinder Toten Leader?
Donc, le titre a été créé par Dennis Cooper après qu'il ait écrit en fait une première mouture de la pièce. Ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement le titre peut être entendu de manière littérale sur le chant des enfants morts. Donc même si Kinder Toten Leader met en scène le retour d'un fantôme, à un moment donné au cours de la pièce, on peut se demander si tous les personnages ne sont pas des fantômes. Et d'autant plus que la grande partie des personnages sont des poupées taille réelle, assez naturalistes, qui évoquent le personnage de George Miles, qui a hanté toute l'œuvre de Dennis Cooper de manière... C'est pas cloné parce qu'ils sont pas identiques, mais on essaie d'attraper par une forme plastique en fait ce personnage qui hante l'œuvre de Dennis. Donc effectivement, on est en réalité face à une mise en scène qui ne semble mettre en scène quasiment que des fantômes, mis à part le personnage de Jonathan Capdevielle, qui ne vacille jamais dans cette qualité fantomatique. Donc il peut s'agir effectivement du chant des enfants morts ou du chant pour les enfants morts, c'est une autre traduction possible. Et ce qui était intéressant, c'était aussi d'avoir cette référence à l'œuvre de Gustave Mahler, qui fait partie, enfin, et des poèmes de Félix Rückert, évidemment, qui font partie qui évoquent l'esthétique du romantisme tardif. Et ça, c'est quelque chose qui me semblait intéressant, puisque toute la scénographie et gérer le principe de jeu, pour moi, fait référence à une esthétique romantique. Où le paysage, qui est la scénographie, joue avec les personnages et bien souvent la psychologie ou les émotions des personnages qui ont un jeu finalement très introverti est traduite par l'animation par les signes qui sont donnés par la scénographie. Donc c'est vrai qu'on a une scénographie qui est très organisée autour de phénomènes météorologiques, la brume, la fumée, le vent, la neige, qui sont comme dans des tableaux de Caspar David Friedrich, des témoins de la psychologie et des émotions des personnages.
Alors, sur ce sensorium et ce décorum et par rapport à Gustave Mahler, si on a évidemment l'accès de Mahler, on se rappelle peut-être de la mélodie finale chez Mahler qui est une sorte de mélodie qui, quelque part, disparaît dans l'immobilité et dans le silence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très impressionnant et presque une équivalence métonymique dans ce que vous donnez à voir et par rapport à ce que Mahler, même si évidemment vous l'accompagnez par un groupe de rock planant, black metal, ou peut-être auriez-vous une autre terminologie, mais c'est vrai que dans l'essence même de ce qu'est l'œuvre de Mahler, je pense qu'on retrouve beaucoup de signes dans ce que vous avez voulu présenter.
Effectivement, donc c'est pas la musique n'est pas du tout la musique de Gustave Mahler, mais c'est effectivement en référence à l'œuvre qui a pu inspirer certains éléments qui sont sur la scène. Vous parliez d'immobilité aussi, c'est vrai que ce qui est important pour moi, l'immobilité évoque tout un tas de choses, hein, mais il y a effectivement l'immobilité qui est de la paralysie, c'est-à-dire des personnages tétanisés ou qui ne peuvent plus bouger. L'immobilité aussi permet, je vous disais, il y a ces George Miles des multiples sur scène. Il y a aussi un personnage qui est le personnage du chanteur ou de la chanteuse, on ne sait pas, c'est un personnage androgyne, enfin évidemment qui est torse nu à la fin, donc on le féminise, mais en faisant référence à la culture du black metal, ça devrait être plutôt un homme en fait au début. Et l'immobilité de ces personnages les font basculer vraiment dans l'image du personnage, c'est-à-dire la même problématique qui est dans le Jerk et dans le Club de Cooper, c'est-à-dire comment est-ce qu'à un moment donné c'est intéressant sur un plateau, enfin quand on a vraiment des corps, quand les spectateurs ont des corps à quelques mètres d'eux, de se dire qu'on arrive quand même à avoir un rapport, on oublie la femme ou l'homme qui est là et on a un rapport à une image Et comment est-ce qu'on peut transformer les interprètes en images à certains moments, en images qui sont effectivement, là en l'occurrence, le chanteur joue vraiment le rôle d'une idole, donc c'est l'idole, c'est le chanteur du groupe de métal qui est transformé en idole par ses adolescents. Pour moi, c'est la Vierge Noire aussi, et c'est vrai qu'à la fin de la pièce, par exemple, je dirais que c'est aussi quelque chose que je peux retrouver dans une gestuelle stylisée, donc pas l'immobilité, mais une gestuelle qui rappellerait plutôt les statues ou les marionnettes. À la fin, Jonathan Capdevielle prend le personnage du chanteur et le fait tomber comme une poupée ou comme une sculpture. Et pour moi, ce serait vraiment comme un type iconoclaste qui arrive dans une église et qui balance par terre la statue de la Vierge et la casse. Voilà, donc pour moi, c'est vrai que c'était intéressant aussi de placer ce personnage-là comme une idole religieuse au milieu de cette pièce.
Cette idole religieuse, à un moment donné, elle est exécutée, même s'il n'y a pas de sang qui coule ici. Effectivement, on lui tranche la gorge avec le tranchant du doigt, comme ça se passait un petit peu, mais c'est beaucoup plus récent dans Inferno de Romeo Castellucci. Est-ce qu'ici, justement, par rapport à ces corps inanimés, en même temps, il y en a certains qui sont animés, quand même articulés, donc c'est très léger, c'est quasiment imperceptible. Comme d'ailleurs pour ce danseur ou cette danseuse, mais en même temps, c'est comme ces, peut-être pour donner une image, ces ballerines d'automates qui seraient un petit peu rayées, qui iraient de plus en plus lentement, et puis ensuite vous jouez sur le reverse d'un mouvement, l'aller-retour, parfois ça se fiche, parfois ça continue, il y a un pré-mouvement. Ça, vous apportez beaucoup de soins.
Ah, bah absolument. Et là, vraiment, dans Kinner Totten Inner, c'est vrai qu'il y avait un travail. Bon, alors, je dirais qu'on va d'un registre, d'un jeu tout à fait naturaliste qui est incarné par le personnage de Jonathan Capdevielle, et progressivement, les personnages, donc sont cinq, sont déclinés. Il y a un personnage qui est le personnage du fantôme qui est quasiment proche de l'immobilité. Et donc les autres personnages ont parfois un jeu plus naturaliste, parfois un jeu plus stylisé, jusqu'à être dans l'immobilité, si vous voulez, on décline ce type de qualité. Donc c'est vrai que je dirais que dans le jeu naturaliste, pour moi, ça évoque évidemment, on a le sentiment d'être face à un humain, plus qu'à une image. L'immobilité évoque évidemment l'image d'un personnage. La gestuelle stylisée évoque aussi l'image d'un personnage. Et ensuite, il y a ces qualités intermédiaires. Et c'est drôle que vous évoquiez Last Days de Gus Van Sant tout à l'heure, où effectivement, nous, on a travaillé, je dirais, comme vraiment... c'est une pièce qui a l'air plus théâtrale quand on la voit, et qui a été complètement construite comme une chorégraphie. C'est-à-dire qu'on a surtout travaillé des rythmes. Donc, un peu plus lent, encore un peu plus lent, encore un peu plus lent. Et ça a été très compliqué parce qu'il fallait que j'ai ces décalages de rythme. Et comme on est dans du live et qu'on n'a pas de métronome, il faut que les interprètes, s'il y en a un qui ralentit, l'autre ralentit plus, enfin qu'ils soient bien calibrés. Et ça a été extrêmement complexe à mettre en œuvre. Et ce qui est drôle, en fait, dans ce type de gestuelle, c'est qu'on est dans une gestuelle aussi stylisée quand on est dans ces ralentis. Et pourtant, par rapport au cadre, à la fois, cette gestuelle stylisée crée une sensation d'irréel. Et en même temps, je trouve intéressant qu'il y ait une lecture réelle possible. C'est-à-dire que ça peut être des gens qui sont des personnages qui sont... sous héroïne ou sous... Alors, par rapport à une gestuelle stylisée, on a voilà ce rapport irréel et en même temps une lecture qui pourrait être tout à fait réelle à certains moments. Et c'est vrai qu'il y avait un mouvement que j'avais trouvé fabuleux dans le film de Gus Van Sant où donc le personnage de Kurt Cobain glisse vers le sol. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose hors du contexte. C'est vrai qu'on est dans un mouvement qui est fabuleux, qui est un ralenti, qui crée quelque chose d'irréel, mais qui est effectivement aussi en même temps quelque chose qui peut être un mouvement transformé par une perception de son corps et l'environnement transformé, qui peut être le fait de la folie ou des drogues. Donc il y a effectivement cette lecture-là possible aussi.
Sur le phénomène de transformation, juste une dernière chose, la scène inaugurale, donc c'est une espèce de créature, de chimère qui sort d'un cercueil. Alors, je vais pas faire tout le temps du name dropping, mais on peut quand même penser aux Richter de Murnau, à Ginsky dans le personnage de Dracula. Et puis évidemment, en même temps, cette extrême lenteur, hein, comme ces prédateurs dans le film de Descent, c'est-à-dire c'est une sorte de préhumanité comme ça. Puis après, ça se révèle être un artifice, comme aussi ailleurs, comme dans I Apologize, où ça c'est un peu ces masques, je dirais, pour simplifier à la Halloween, comme ça. Mais le fait, justement, qu'on a l'impression chez vous, pour faire une dernière comparaison, mais comme chez Roy Anderson dans Songs of the Second Floor, c'est-à-dire que lui, on a des plans séquences et on a l'impression qu'il y a une accumulation de temps jusqu'à ce que ça implose littéralement. Chez vous, on a aussi cette impression-là, c'est-à-dire qu'il y a des surgissements de violence comme ça, extrêmement rapides, très furtifs, que rien n'annonce, que rien ne vient nécessairement... donnée. Et puis des stases extrêmement déployées jusqu'aux extrêmes, comme ça, comme si vous jouiez vraiment, véritablement, comme dans un thriller hitchcockien sur les nerfs du spectateur. Il y a beaucoup d'attente.
Mais ça, c'est, voilà, c'est vraiment, une, pour moi, un rythme aussi qui vient, effectivement, la scène, pour moi, du revenant, hein, qui est, alors c'est vrai que j'aime, alors on n'est pas du tout dans du théâtre no, mais j'adore le théâtre no. Et effectivement, il y a, comment dire, comment créer l'irréalité et le rythme nécessaire, qui est effectivement, le no, c'est, le no, en fait, c'est plutôt un rituel ou une cérémonie du théâtre. Donc c'est vrai, comment est-ce qu'on arrive à créer le rythme du rituel sur un plateau? Donc il faut quand même, c'est un dosage aussi assez délicat d'étirement du temps, qui fait aussi référence, enfin, à ce que je disais tout à l'heure, enfin, qui vient aussi du fait que les personnages ont ce jeu introverti, sont dans quelque chose de timide. Comme on est dans un univers tout à fait adolescent, c'est vrai qu'il y a des explosions, qui sont des explosions de violence, il y a des explosions de plaisir aussi. Quand, à un moment donné, Guillaume Marie fait un espèce de headbanging au ralenti, c'est tout d'un coup ce personnage qui était, qui a été violent avant, à un moment donné, et dans un déploiement, enfin, montre son plaisir dans la danse pendant 2 minutes, quoi. Donc, c'est vrai qu'il s'agit plus souvent d'explosions de violence. En tout cas, il s'agit d'explosions. La pièce est rythmée de cette manière-là, évidemment.
Donner une petite chose sur le récit de Denis Cooper, qui est la plus discret, peut-être. Quels en sont un petit peu les... Enfin, je ne sais pas, discret, pas le mot, mais quels en sont un petit peu les éléments? Il y a aussi toujours cette fascination pour la mort, la violence. Il y a un jeu vidéo, notamment, extrêmement célèbre, qui a beaucoup défrayé la chronique, qui est cité. Mmh. Donc, il y a tout un univers adolescent assez borderline. Mais en même temps, on est plus sur une impression de trace, de sillage. Le personnage du Spectre, semble-t-il, si c'est bien lui, appelle Jonathan, qui est bien Jonathan Capdevielle, mais c'est très furtif. Alors qu'est-ce qu'il en était? Comment vous dialoguez avec le texte? C'est quand même très différent de Jerk, même si je crois que les deux s'inscrivent dans un cycle, comme chez Denis Cooper, il y a eu tout un cycle.
Mmh. Bah, donc oui, effectivement, avec Denis Cooper, on a créé 4 pièces, donc I Apologize, Une belle enfant blonde, Kinner Totten Leader et Jerk, dans cet ordre-là. Les formes étaient différentes, hein. C'est vrai que dans I Apologize, on était principalement dans la mise en scène du poème, de l'écriture poétique de Cooper. Dans Kinner Totten Leader, c'est la pièce où, enfin, Denis était très présent sur toutes les pièces, mais je dirais que c'est là où, effectivement, je crois qu'à la fin, on doit avoir 13 ou 14 minutes de texte, mais il a vraiment tissé toute la dramaturgie. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il a réussi à... Enfin, il a écrit cette pièce suite à de nombreuses discussions qu'on a eues, des problématiques aussi sur lesquelles on souhaitait travailler, et il a laissé énormément d'espace pour une écriture non textuelle qu'il avait écrit de grandes didascalies qui ont été suivies, parfois non, qui ont été réinterprétées, mais bon, il a toujours été à mes côtés, en fait, donc on a essayé de créer une tension, en fait, et donc il a, pour moi, réussi vraiment une écriture scénique, c'est-à-dire en laissant tout l'espace à l'écriture non textuelle. Et ça, c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas tant de textes d'auteurs de théâtre qui arrivent à faire ça. J'ai vu ça chez Heiner Müller aussi, et je dirais que c'est un de mes grands problèmes avec les textes de théâtre existants, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, voilà, pas beaucoup qui laissent réellement de la place à l'écriture du metteur en scène qui co-écrit, en fait, avec l'écrivain.
Une chose sur le rapport à l'inconscient, le rapport au monde, hein. Si on prend les mythes romantiques comme Faust, Faust, le problème, c'est que je crois qu'il n'a pas la clé d'accès au monde. Il pourrait l'avoir complètement, il pourrait avoir accès, mais il y a toujours un hiatus, un divorce entre lui et le monde. Je crois que les personnages que vous représentez, comme de manière différente ceux de Gus Van Sant par rapport au massacre de Colombine, qui a aussi été écrit ou réécrit par Denis Cooper, qui sont ces deux tueurs où il n'y a rien sur les motivations, c'est vraiment des blocs erratiques de sensations, de sentiments. Il y a quelques indices, ça parle extrêmement peu, c'est d'une opacité, c'est presque un mystère médiéval, on ne va pas s'extasier, mais il y a un peu de ça. Ici, on a aussi l'impression de cette même obscurité. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur ce rapport au monde, le fait d'être intégré ou non au monde?
Bon, la phrase narrative qu'a créée Denis Cooper, c'est effectivement un type aux pulsions violentes, enfin deux adolescents, en fait, un qui a des pulsions violentes et l'autre qui a des pulsions plutôt suicidaires. Ces deux personnages sont probablement amoureux. Le type aux pulsions violentes assassine l'autre gamin suicidaire. C'est ça la trame narrative. La pièce, au début, est dans une espèce de... essayer de retrouver la narration. C'est-à-dire que les deux personnages sont là, mais auraient comme oublié, refoulé réellement cette narration. Donc ils savent que quelque chose s'est passé, mais le mort ne comprend pas qu'il est mort, l'assassin ne sait pas qu'il a assassiné. Et je dirais que cette phrase se reconstruit, en fait, au fur et à mesure de la pièce, jusqu'au moment où les deux personnages comprennent que l'un a assassiné l'autre. Et où il parle effectivement de l'expérience de du meurtre, donc c'est évidemment cette situation est délirante, mais où il écrit que effectivement la réalisation du meurtre, je dirais comme dans Jerk, n'a pas été la réalisation heureuse du fantasme, a été un échec par rapport à la mise en scène du fantasme. Ce qui est intéressant dans Kinder Totten Lieder, c'est que par ailleurs, je dirais qu'il y a quelque chose quand même qui réussit plus, qui est la mise en scène poétique. Je dirais, pour moi, le groupe de musique remplit cette forme du rôle poétique dans la pièce, la mise en scène poétique du meurtre, et la mise en scène qui fait référence à des fêtes païennes autrichiennes, qui est donc de l'ordre de la cérémonie ou du carnaval, ou comment est-ce que la société peut créer des espaces où on peut effectivement combler des fantasmes nos fantasmes les plus extrêmes et de manière réelle, et donc on n'est pas du tout dans on est dans l'expérience fictionnelle, on n'est pas du tout dans l'acte réel. Donc c'est vrai que je pense que dans Kinder Totten Lieder comme dans I Upload Jazz, il y a effectivement cette question au fantasme et où est-ce que le fantasme peut se réaliser. Donc il y a la création de ces mondes fictionnels qui sont là comme des exutoires pour nos fantasmes. Donc il était intéressant pour moi que ces deux personnages soient dans une réalité, soient eux dans une problématique réelle, d'un meurtre réel, et en même temps, ces adolescents qui ont un imaginaire morbide trouvent en fait, comblent en fait probablement leur pulsion, évidemment bien mieux en allant à un concert ou en étant dans une expérience poétique que dans l'acte réel. Et du coup, ce qui était intéressant aussi pour moi dans Kinder Totten Lieder, c'est qu'il y a à la fin, les spectateurs qui sont ce groupe d'adolescents disparaissent, et les spectateurs de la salle sont, même si évidemment ils sont les spectateurs depuis le début, sont seuls face à la pièce qui leur est présentée et qui leur est vraiment présentée. C'est à ce moment-là qu'on a qui est le suicide, mais qui est en fait le sacrifice de cette idole. Et pour moi, on est vraiment dans une espèce de reconstitution contemporaine d'un sacrifice ancien où nous, spectateurs, allons au théâtre pour voir la mise en scène de la mort, je dirais avec plaisir et avec jubilation. Je dirais, la pièce est extrêmement esthétisante et j'ai vraiment essayé d'être insistante sur ce plaisir, sur cet aspect jubilatoire qu'on peut avoir dans la mise en scène de la mort.
Alors justement, dernière chose sur ces Ars Moriendi, ces danses macabres en fait, qui peut y avoir parfois. Vous citiez l'Autriche avec cette légende, enfin de ces Pertschen, ces créatures qui reviennent au mois de janvier pour chasser les âmes damnées et les punir. En même temps, l'Autriche, c'est aussi le pays de Elfriede Jelinek et Werner Schwab. Werner Schwab, c'est quelqu'un que vous connaissez sans doute bien et qui marie justement un vocabulaire qui fait référence à la fois à Heinrich Heine, au romantique, qui est très élaboré dans sa langue. Et puis en même temps, il dit je marie l'or à la merde. C'est-à-dire qu'il y a un côté très organique, il y a de la corpophagie, il y a toute forme de sévices dans sa littérature, qui mêle un peu des références au sitcom avec des références comme chez Shakespeare. C'est un patchwork très très dense. C'est très très haut. Ici, justement, par rapport au fait de rapatrier peut-être effectivement des légendes, ça participait de quelle nécessité par rapport à ça? Parce que l'apparition est assez furtive quand même.
Oui, elle est si furtive qu'on appelle ça une référence quasiment. Je suis moitié autrichienne, donc c'est vrai que, et moitié française, et si vous voulez, c'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'était évidemment ce rapport ancien, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est nouveau du tout. Si vous voulez, il y a un texte pour moi qui est vraiment important derrière Kinder Totten Lieder, c'est la part maudite de Georges Bataille, qui parle effectivement de cette notion de dépense improductive et comment la société crée des endroits où on peut réaliser ces dépenses improductives. Donc c'est pour moi des questions ancestrales, mais du coup il était intéressant, c'est vrai qu'on fait référence à différentes cultures, hein. On fait référence au Perchten autrichien, à la fois effectivement à Halloween aussi, au concert de metal rock, à l'enterrement, donc à une cérémonie religieuse, et on est effectivement sur des sur des références culturelles très différentes qui quand même ont des liens par rapport à la mise en scène de la mort, notre rapport, comment est-ce qu'on peut assouvir nos pulsions morbides dans différentes situations et comment est-ce que la société organise des endroits effectivement où nous pouvons assouvir des pulsions type pulsions morbides par exemple.
Par rapport, dernière chose, à vos projets annoncés avec ces deux patineuses, qu'est-ce qu'il en est du corps de la patineuse justement qui marie à la fois l'animé et l'inanimé, la marionnette, la danseuse, le corps virtuel, le corps réel, il y a aussi tout un rapport à la glace, au tranchant, beaucoup de choses qu'on peut imaginer ou pas. Là, on fantasme, enfin, je fantasme beaucoup. Qu'est-ce qu'il en sera ?
Alors, du coup, cette pièce a évolué. En fait, elle se fait avec une patineuse et un comédien, donc Jonathan Capdevielle, qui traverse définitivement toutes les pièces. Et cette patineuse, donc, s'appelle Aurore Ponomarenko. Elle incarne un personnage qui est une surenchère de l'innocence et de la beauté, si vous voulez. Donc, on a ça un peu dans I Apologize avec les petites Lolita. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en scène un personnage qui, comme peut-être Laura Palmer, est tellement et n'est pas un personnage réel et le produit d'un fantasme. C'est-à-dire que l'innocence ne correspond pas à un. Pour moi, si vous voulez, l'innocence pour moi est pratiquement un fantasme pervers puisque ça s'associe. Quand on voit Aurore Ponomarenko sur la glace, on a déjà commencé à travailler. On attend le drame quasiment. Je dirais que c'est comme quand on lance une fille un peu trop blonde, trop belle, trop mignonne dans une forêt noire, même si elle s'en sort et qu'elle arrive de l'autre côté. On pense au drame, qui est drame ou pas. Donc, je trouvais que c'était, pour moi, c'est vraiment un questionnement sur la notion d'innocence et la perversité du fantasme d'innocence, en fait, qui s'allie nécessairement au drame. C'est aussi une pièce ultra nostalgique sur quelque chose que je trouve extrêmement émouvant et qui est une des raisons pour lesquelles je fais du théâtre aussi, c'est ce rapport au costume. Ça veut dire, donc c'est vrai qu'au patinage artistique, on est face à des athlètes extraordinaires, mais qui portent des costumes souvent plus mignons, c'est-à-dire que des rêves de je ne sais pas quoi, la danseuse de flamenco, l'astronaute, des choses qui sont beaucoup plus simples en fait que pas. Et qui sont, pour moi, c'est vraiment comment le costume révèle ce que nous souhaiterions être et pas ce que nous sommes. Mais du coup, je trouve que c'est le fossé entre l'humain et ce qu'il souhaite être qui est révélé par son costume et quelque chose d'extrêmement émouvant. Enfin, vous verrez dans toutes les pièces, c'est vrai que quand les gamins sont avec leur t-shirt de métal, je trouve intéressant parce que ça témoigne aussi de leurs rêves ou de leur imaginaire fantasmatique. Évidemment, ils ne sont pas dans un film de Tim Burton ou de je ne sais quoi. Ils sont enfin, ce que je trouve encore plus beau dans la réalité, c'est-à-dire de voir quelqu'un dans la rue et d'avoir des signes qui me donnent, d'avoir des vêtements qui me donnent des signes de leur imaginaire fantasmatique et la réalité qui fait défaut en fait à cet imaginaire. Et c'est un rapport que je trouve extrêmement émouvant.